le VIH, pour se répliquer, il a bien compris qu'il doit se protéger et cacher ses parties susceptibles d'être reconnues par le système immunitaire. Le VIH, il sait très bien qu'il est en train d'évoluer chez la personne infectée dans un environnement qui est hostile. Et donc, il essaye de se protéger. Il utilise une sorte de bouclier. Et donc, il y a une partie du VIH, c'est la clé qu'il utilise pour entrer dans la cellule. Ça s'appelle les glycoprotéines de l'enveloppe. Et donc, ces glycoprotéines d'enveloppe sont à la surface des particules virales. Ils sont aussi à la surface des cellules que le virus infecte. Or, le VIH, ce qu'il veut, c'est cacher un maximum. Il ne veut pas que ces glycoprotéines d'enveloppe soient bien reconnues. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme une boîte hermétique, parce qu'il essaie vraiment de rester tout petit,
oui,
et exposé le moins possible pour ne pas être reconnu par les systèmes immunitaires.
Et malgré cela, votre équipe a découvert un nouveau mécanisme, vous le qualifiez de sorte d'ouvre-boîte, qui force le virus à exposer ses parties vulnérables.
Effectivement, donc depuis déjà quelques années, ce que nous avons montré ici à l'Université de Montréal et au CHUM, où je travaille, c'est que le VIH, pour essayer de se cacher, utilise deux petites protéines qui s'appellent NEF et VPU. Et ces protéines-là, ce qu'ils font, c'est essayer d'enlever du CD4 à la surface de la cellule infectée. Donc c'est quoi CD4? CD4, c'est la protéine que les virus utilisent pour entrer dans la cellule. Donc grosso modo, ce qui se produit, c'est que cette clé que les virus exposent à la surface de la cellule, qu'on nomme les glycoprotéines de l'enveloppe, lorsqu'ils s'interagissent avec CD4, c'est comme si la boîte hermétique s'ouvre, puis là, tout à coup, on expose, on dévoile des composantes que les virus aimeraient garder cachées. Et donc, c'est pour ça que les virus ont mis énormément d'énergie à développer quelque chose, une stratégie assez complexe, pour enlever du CD4 à la surface. Donc, une fois que au laboratoire, on s'est aperçu que le VIH mettait énormément d'énergie à enlever ces CD4 de la surface pour se cacher, on s'est dit, mais si on lui donnait du CD4 sous une autre forme, des petites molécules qui ressemblent à du CD4, ça ne pourrait pas fonctionner comme un ouvre-boîte et du coup, le virus ne le voit pas venir. On lui donne une petite molécule qui ferait plus ou moins la même chose que CD4 et donc ces glycoprotéines d'enveloppe qui se trouvent à la surface de la cellule infectée, elles vont s'ouvrir. Et si elles s'ouvrent, elles s'exposent des parties que le virus voulait cacher. Et ce que nous avons démontré au laboratoire, c'est lorsqu'on ouvre ces glycoprotéines d'enveloppe, des anticorps qui sont normalement générés chez des patients infectés ou qui sont facilement générés par des immunogènes, donc par des vaccins potentiels, sont capables d'élier l'enveloppe à la surface des cellules infectées et ils sont capables de recruter des cellules qu'on appelle tueuses. En anglais, les mots, ce serait « natural killer ». C'est des cellules qui sont capables de reconnaître des anticorps à la surface des cellules infectées et de tuer la cellule infectée.
Et donc, à terme, ça peut mener non seulement à des traitements, mais peut-être même à un vaccin qui empêcherait la transmission du virus?
Effectivement, c'est l'idée. Je pense que cette découverte pourrait s'appliquer en deux étapes. Et bien, d'un côté prophylactique, donc préventif, on sait que pour générer ce type d'anticorps capables de reconnaître l'enveloppe lorsque l'enveloppe est ouverte, ces anticorps, on est capable de les générer avec les immunogènes que nous avons au laboratoire. Donc, c'est des anticorps qui sont faciles à générer. On parle d'un vaccin, par contre, à deux composants dans lesquels il faudrait aussi fournir ces petites molécules qui fonctionneraient comme d'ouvre-boîte. Donc, lorsque les virus essayeraient de venir vers un nouvel hôte, une nouvelle personne, si on donnait l'ouvre-boîte en combination avec ces vaccins-là, les anticorps seraient en place pour fonctionner une fois qu'on ouvrirait l'enveloppe. D'un autre côté, on sait très bien présentement que malgré les succès que la thérapie antirétrovirale a, c'est capable de diminuer la charge virale de façon dramatique, ce qui est très bien, c'est qu'il se traduit par une augmentation de l'espérance de vie des personnes infectées. Si jamais le patient arrête le traitement, la charge virale revient. Et donc, ça c'est un problème parce que le virus se cache à l'intérieur de certaines cellules et reste à l'état dormant. On appelle ça les réservoirs viraux. Et donc, depuis plusieurs années, maintenant, on commence à parler d'essayer de trouver des stratégies pour éventuellement un jour éradiquer le virus. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est que si jamais quelqu'un est infecté, ultimement, le guérir. Mais pour faire ça, les chercheurs essaient de trouver ce qu'on appelle une stratégie « shock and kill ». Donc, il faudrait, pendant que la personne est sous traitement antirétroviral, donc il n'y a pas de charge virale, on aimerait réveiller ces cellules dormantes. Et si jamais on est capable de les réveiller, bien, il faudrait les tuer. Et donc, nous autres, on propose que l'approche de l'ouvre-boîte permettrait, si jamais on est capable de réveiller ces cellules dormantes dans lesquelles le virus est dormant, mais on pourrait fournir cette petite molécule, exposer les parties que le virus essaye de cacher, puis à ce moment-là, les anticorps qui sont déjà présents chez le patient infecté, ça on l'a montré, ils seraient capables de tuer la cellule infectée.
Alors, il existe plusieurs variantes du VIH. Vos travaux ont porté sur le VIH1.
Effectivement, vous soulevez un excellent point. Donc, le VIH1, c'est le VIH qui est responsable pour la pandémie, la grande pandémie, le plus grand nombre d'infections dans le monde. Mais il y a des travaux en cours au laboratoire pour voir quelle est l'efficacité de cette molécule, aussi avec le VIH de type 2. Je veux souligner le fait qu'à date, nous avons fait des expériences en laboratoire in vitro, aussi ex vivo, mais nous n'avons pas encore fait des travaux in vivo, donc chez les animaux, chez les singes pour le moment.
Donc, quelle sera votre prochaine étape?
Donc, la prochaine étape est effectivement essayer d'amener cette petite molécule et ses approches chez le singe, dans des modèles animaux, pour voir s'il y a des toxicités ou pas des toxicités reliées aux molécules, et par la suite voir si notre hypothèse tient le coup et si on peut effectivement diminuer les réservoirs viraux chez les patients infectés. Et il y a aussi des études qui sont en cours pour essayer de voir si cette petite molécule, en conjonction avec un vaccin, serait capable de bloquer la transmission chez les singes. On veut vraiment travailler, évidemment, chez les singes avant de penser à aller plus loin dans des études cliniques plus tard.